Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ses proches l'affirment. L'ancien vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, est de retour ce matin dans le pays. Son éviction le 6 novembre dernier avait été à l'origine de la crise qui a précipité le départ du président Robert Mugabe. L'ancien héros déchu de l'indépendance a démissionné hier après 37 années passées au pouvoir, lâché depuis une semaine par l'armée et son parti. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Emmerson Mnangagwa tient aujourd'hui sa revanche puisqu'il devrait assurer la présidence par intérim.
Oui, Emmerson Mnangagwa, qui est surnommé le crocodile, animal réputé dans les coutumes du Zimbabwe pour sa rapidité, sa discrétion et son caractère impitoyable, rentre donc au pays pour diriger la période de transition pendant 90 jours et peut-être même au-delà. L'élection présidentielle est prévue pour 2018 et le parti au pouvoir, la ZANU-PF, en a déjà fait officiellement son candidat. C'est un homme de 75 ans, un fidèle parmi les fidèles de Mugabe, qui, avant sa disgrâce, a été de tous les gouvernements depuis l'indépendance du pays. On retiendra, pour mieux le situer, qu'il a été ministre de la sécurité d'État au moment où la répression de la révolte des Ndébélé dans le Matabeleland a fait 20 000 morts en 1983. Il a également été ministre de la Défense et président du Parlement. Pour le moment, l'ouverture démocratique n'est pas citée comme une priorité, mais ceux qui ont manifesté leur joie hier dans les rues espèrent que le successeur de Mugabe, réputé pour être un pragmatique, tiendra compte de la colère de la population contre les politiques de ces dernières années.
Nabila Hamel, merci pour ces explications. L'opposition syrienne se réunit aujourd'hui en Arabie Saoudite pour choisir ses représentants en vue des prochaines négociations de paix sous l'égide de l'ONU, alors que dans le même temps, la Turquie, l'Iran et la Russie se retrouvent aujourd'hui dans la station balnéaire russe de Sotchi pour discuter d'une issue au conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 et qui a fait plus de 330 000 morts. 7 Syriens sur 10 ont aujourd'hui besoin d'aide humanitaire selon l'ONU. Repenser les îles du Nord pour une reconstruction durable, c'est le titre du rapport remis au gouvernement par Philippe Gustin, le préfet chargé de la reconstruction des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan Irma en septembre dernier. Il s'agit de tenir enfin compte des risques climatiques et d'éviter certaines erreurs du passé, Véronique Robérotte.
Le rapport préconise de dresser rapidement une nouvelle carte des aléas, des zones à risque en bord de mer où reconstruire ne sera plus possible. D'établir également un diagnostic précis des bâtiments endommagés par le cyclone Irma et ses vents de plus de 320 km/h. L'idée générale est de reconstruire sur une base plus résiliente et respectueuse de l'environnement. Le préfet Philippe Gustin.
Ce plan d'action, c'est une méthode qui part de la nécessité du côté de l'État de renforcer ses moyens en termes de contrôle de légalité et en termes d'environnement, en termes d'urbanisme. Et puis, de l'autre côté, pour la collectivité, c'est l'engagement de prendre en compte, dans son règlement d'urbanisme qu'elle doit élaborer, les notifications que l'État va lui faire sur les risques. Faire en sorte qu'on ne reconstruise plus demain dans des zones qui soient considérées comme ayant des risques forts et que l'on construise aussi avec des normes qui soit adapté aussi au risque cyclonique et au risque sismique. On sait très bien que les réseaux ont été fortement endommagés par le cyclone, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, la téléphonie. Et donc, il faut mettre en place des réseaux qui soient plus résilients à l'avenir.
Le rapport plaide pour la mise en place d'une véritable police de l'urbanisme et de la construction.
Des avocats contre des box cages de verre dans les tribunaux français. Le barreau des Hauts-de-Seine a assigné en référé la garde des Sceaux contre la généralisation de ce type de box fermée. Et l'audience doit avoir lieu tout à l'heure à Nanterre, Antoine Marette.
Les box en partie ou totalement vitrées ne datent pas d'hier. Mais auparavant, ils faisaient figure d'exception pour empêcher les violences ou les évasions au cours de procès particulièrement sensibles. Or, depuis 2015, une politique de sécurisation des tribunaux a été engagée pour répondre à la menace terroriste. Cet été, 18 box ont ainsi été transformées en cubes de verre en Île-de-France et 9 autres le seront d'ici la fin de l'année prochaine. Pour les avocats, cela pose deux problèmes. D'abord, d'un point de vue pratique, cela rend très compliqué la communication entre la défense et son client. Ils ne peuvent échanger qu'à travers une simple ouverture, parfois trop haute. Ensuite, symboliquement, cela constitue, selon les avocats, une atteinte à la présomption d'innocence. L'accusé est enfermé dans un enclos de verre, cela installe l'image de la peur. Enfin, plus globalement, ce type de bocal porte atteinte à l'oralité des débats. Le juge ne peut plus entendre l'accusé quand le micro défaille, ce qui est loin d'être exceptionnel dans un tribunal en France, et cela complique également le travail des interprètes. En 2003 déjà, des avocats s'étaient opposés en justice à l'installation de boxes vitrées à la cour d'appel de Paris et aux assises de Versailles. Ils avaient obtenu gain de cause. En revanche, en 2015, une procédure similaire engagée à Grenoble avait échoué.
Le temps de ce mercredi 22 novembre, ensoleillé et doux, jusqu'à l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest cet après-midi. Les températures sont comprises ce matin entre 0 et 13 degrés de l'intérieur des terres vers les côtes. Cet après-midi, il fera entre 11 et 21 degrés du nord-est vers le sud. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine Mercier.